RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, si un climat stable a permis à notre espèce de se développer depuis plus de 10 000 ans, le changement climatique en cours bouleverse cet équilibre et menace l'habitabilité de la planète, surtout à 8 milliards. Alors quand un phénomène naturel comme El Niño fait son retour, il attise les braises de notre monde en tension. Résultat, des sécheresses ici, des inondations là-bas. Vous pourrez le constater avec des reportages en République démocratique du Congo, au Kenya, en Zambie, que vous allez découvrir dans cette émission. Nous vous en parlons depuis ce matin sur RFI. El Niño est un phénomène climatique naturel qui se forme dans le Pacifique et qui a pour effet principal d'intensifier rapidement le réchauffement de l'atmosphère. Alors comment s'explique ce phénomène? Où en est-il aujourd'hui? Et à quoi faut-il s'attendre dans les années à venir? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec nos invités.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Jérôme Bialard.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous êtes un spécialiste des Niño. Vous me disiez, on nous appelle tous les 7 ans, on devient des stars, et puis après on retourne dans notre laboratoire.
Exactement, c'est ça, c'est la vie, la dure vie du climatologue. En fait, c'est un phénomène qui, en un temps de récurrence qui est assez long, on parle de climat, on ne parle pas de météorologie. Donc effectivement, tous les 6-7 ans, il y a un El Niño assez fort, et puis c'est notre heure de gloire dans les médias, mais elle sera vite passée.
Bah écoutez, en tout cas, on ne va pas non plus espérer des El Niño trop forts, parce qu'on va voir que les conséquences sont quand même assez catastrophiques, mais on va profiter de votre présence pour définir ce phénomène. Alors déjà, pourquoi est-ce que ce phénomène s'appelle comme cela ?
Alors, c'est un petit nom qui lui vient de ses origines. Vous avez dit que ça se développe dans le Pacifique tropical. Et donc, l'Amérique du Sud borde le Pacifique tropical. Et les pêcheurs péruviens, en fait, dès le 19e siècle, avaient remarqué que certaines années, les eaux étaient anormalement chaudes quand on s'approchait de Noël. Donc, Noël en espagnol, le petit Jésus en espagnol, c'est El Niño, l'enfant. Et donc, ils avaient appelé ça le courant El Niño. Et c'est bien par la suite, dans les années 60, en fait, on est vers 1960, qu'on s'est rendu compte que ce phénomène n'était pas juste un phénomène localisé, mais un phénomène qui affectait à la fois l'océan et l'atmosphère sur une grande partie du Pacifique.
Et une grande partie du monde. Alors, ce phénomène a contribué à pousser les températures mondiales à des niveaux records au cours des derniers mois. Quels sont les liens que l'on peut faire exactement entre les températures records que l'on a pu observer dans certaines parties du monde et El Niño?
Alors, quand on prend la température en moyenne planétaire, en fait, il y a une influence assez claire du phénomène El Niño. Moi, j'aime bien, pour expliquer ça, comparer le phénomène à une clim réversible ou à un chauffage. D'habitude, les vents dominants, le Pacifique, ramènent des eaux froides en contact avec l'atmosphère. C'est un phénomène qui est bien connu des océanographes, qu'on appelle un upwelling. Et ça, c'est une clim. On a des eaux froides en contact avec l'atmosphère, on rafraîchit l'atmosphère. Pendant un El Niño, ce qui se passe, c'est que les vents dominants s'affaiblissent et qu'en fait, ce phénomène de remontée d'eau froide s'affaiblit. Donc, on a des eaux plus chaudes que d'habitude en surface. Et comme on a des eaux plus chaudes que d'habitude en surface, l'atmosphère planétaire se réchauffe. Et donc, les effets sont maximum sur le pourtour du Pacifique, mais il y a vraiment une augmentation de la température planétaire pendant l'année de l'El Niño et pendant l'année qui suit, en fait.
Alors, dans quelle proportion on arrive à l'évaluer ?
Alors, c'est que l'augmentation de température de la moyenne de la planète est de l'ordre de quelques dixièmes de degrés Celsius. Et en fait, quand on regarde les courbes d'évolution de la température de la planète sur les 100 dernières années, on voit une rampe, une augmentation à long terme qui correspond aux effets du réchauffement climatique. Mais par-dessus ces effets se superposent les effets d'El Niño et de sa petite sœur, hein, dont on n'a pas parlé, la Niña. Donc El Niño est une anomalie chaude et la Niña est une anomalie froide qui, elle, rafraîchit l'atmosphère. Et en fait, la plupart des records de température, de temps en temps, on dit on a battu un nouveau record de température planétaire. En fait, ça correspond à des années où se superpose l'effet de El Niño avec les effets à long terme du réchauffement climatique.
Alors, nous avons justement avec nous Aïda Diong-Nyang. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes météorologue, conseillère technique à la direction de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal et vice-présidente du premier groupe de travail du GIEC. Alors, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui dresse un état des lieux des connaissances à travers ses nombreux rapports. Il y a trois groupes de travail et le premier groupe que vous co-présidez évalue l'état des connaissances portant sur les bases physiques du changement climatique. Et vous travaillez actuellement sur le 7e rapport ?
Exactement. Donc le 7e rapport a débuté depuis plus de 6 mois et nous sommes en train de préparer ce rapport. En tout cas, de préparer la structuration du rapport.
Oui, parce que ça prend beaucoup de temps. Oui. Ça se passe avec des milliers de scientifiques à travers le monde. Enfin, c'est un énorme travail. Et alors, le changement climatique, contrairement à El Niño, lui n'est pas un phénomène naturel. Il est dû aux activités humaines. C'est toujours bon de le rappeler.
Effectivement, le El Niño, c'est un phénomène naturel. En fait, El Niño, la Niña, donc plus globalement, ce qu'on appelle ENSO, donc c'est un phénomène naturel, donc c'est la variabilité naturelle du climat. Par contre, le changement climatique est dû aux activités humaines, aux émissions de gaz à effet de serre et au changement d'usage des terres.
Et donc c'est la superposition en fait du réchauffement climatique et de El Niño qui est explosive, les deux à la fois.
Effectivement, surtout quand il y a El Niño, les années El Niño, donc comme ça a été rappelé tout à l'heure, il y a une augmentation de température qui se superpose à l'augmentation de température d'origine anthropique. Donc il y a des effets explosifs, non seulement sur la température, mais il peut y avoir aussi des effets explosifs selon les régions, sur l'occurrence des précipitations ou des phénomènes extrêmes.
Alors Jérôme Viala, vous disiez que ce sont les courants au niveau du Pacifique qui sont inversés dans un sens ou dans un autre et que c'est cela qui fait un phénomène de clim qui réchauffe ou qui refroidit en gros la météo mondiale, hein, pour simplifier. L'impact le plus fort, c'est sur les pourtours du Pacifique.
Tout à fait. Alors, ouais, déjà, c'est toujours un peu difficile à la radio de représenter des images de ce qui se passe sur le tour du Pacifique. Mais oui, déjà, il faut rappeler qu'un phénomène climatique, en général, c'est un phénomène qui fait intervenir à la fois l'océan et l'atmosphère. Et c'est vraiment les interactions entre l'océan et l'atmosphère qui sont la source du développement des anomalies, soit El Niño, soit La Niña. Ceci étant dit, donc le Pacifique, c'est un grand océan. Pendant un El Niño, normalement, les eaux les plus chaudes du Pacifique sont du côté de l'Australie. Pendant un El Niño, en fait, ces eaux les plus chaudes se déplacent vers l'Amérique du Sud. Donc, c'est des déplacements sur des dizaines de milliers de kilomètres. Et ça entraîne une grosse réorganisation de la circulation atmosphérique. Donc, les effets les plus importants sont locaux. C'est-à-dire que, par exemple, en Australie, les pluies qu'il y a d'habitude au-dessus des eaux chaudes, elles sont parties pendant un El Niño, donc on a une sécheresse pendant un El Niño. Et à l'inverse, on a plutôt plus de pluies que d'habitude en Amérique du Sud. Mais les dérèglements de la circulation atmosphérique, ils sont tellement importants qu'il y a des phénomènes qu'on appelle les téléconnexions qui, en fait, transportent les effets d'El Niño dans des régions lointaines. Et en fait, ces téléconnexions vont modifier le climat sur l'Amérique du Nord, sur les autres océans tropicaux et en particulier aussi sur l'Afrique.
Voilà, jusqu'en Afrique. Alors, le continent africain, vous l'avez dit, est aussi impacté. Je vous propose d'aller en République démocratique du Congo, dans la ville de Kalemi, qui a été coupée en deux, même en trois, par la montée des eaux du lac Tanganyika. Le boulevard Lumumba, qui est la seule artère principale de la ville, est inondé. Certaines sections sont impraticables. Des habitants ont développé des astuces, notamment pour se déplacer dans la ville. C'est un reportage de Denise Maéo, notre correspondante qui revient de cette zone.
Au port de Kalemi, cette jeune femme bien habillée hésite à marcher dans l'eau avant d'atteindre le guichet et acheter son billet de voyage. Cette ville riveraine du lac Tanganyika est coupée en deux, voire en trois. Les eaux envahissent la chaussée et rendent difficile la circulation. Mathias Makolovera, jeune entrepreneur, est choqué par ce phénomène.
Pire encore, se voir le boulevard Lumumba, qui est l'unique artère principale de la ville de Kalemi actuellement, qui est en train de partir. Si vous n'avez pas un véhicule pour faire le virage de Kalumbi, l'hôtel de ville a essayé de créer ce passage-là, bien qu'il soit encore difficile, qui demande la démolition des maisons des gens, vous prenez la pirogue sur une distance de 100 ou 150 mètres.
Et oui, le taxi pirogue est devenu le moyen de transport sur une section du boulevard Lumumba. Témoignage de Rick Banza, qui devait passer un entretien d'embauche au centre-ville.
On a commencé d'abord par traverser dans l'eau. Et puis il y a eu des garçons qui ont mis des sacs de sable autour, un peu de bois pour faciliter le passage des gens. Mais vu le niveau d'eau qui ne fait qu'augmenter, cette fois-là, ils ont mis des pirogues. C'est ainsi que j'ai pris la pirogue. J'avais très peur de se noyer, mais Dieu merci, j'ai quand même traversé.
Il y a quelques jours, l'eau du lac Tanganyika a envahi une autre section de l'artère principale au cœur de la ville. Lewis, un employé qui emprunte cette voie au quotidien, est en désarroi.
L'eau qui a envahi la chaussée ne provient pas du sous-sol. Elle vient du lac. Chaque fois qu'il y a des vagues, elle renvoie l'eau jusqu'au centre-ville. Il y a 5 jours, il n'y avait pas d'eau ici.
Depuis le début de l'année, le niveau du lac Tanganyika a augmenté de près d'un mètre, indique le laboratoire géophysique basé en France. Modeste Kabazi, président de la société civile de Kalemi, estime malgré tout qu'il y a des actions à mener pour sauver la ville.
Le lac Tanganyika a un seul exutoire, qui est la rivière Lukuga. Que ce soit les eaux qui viennent de la Tanzanie, qui viennent du Burundi, qui viennent de la Zambie, ils n'ont qu'une seule sortie, c'est la rivière Lukuga. Il faut songer quand même à la draguer, la curer. Aujourd'hui, toutes les saletés qui viennent de part et d'autre font que la rivière s'est beaucoup rétrécie.
Les habitants de Kalemi espèrent une décrue du lac au courant de la saison sèche afin que la vie revienne à la normale dans cette ville portuaire. Denise Maillot, de retour de Kalemi, RFI.
Le taxi pirogue à la place du taxi voiture, une inondation extrêmement importante à Dadiongnang. Ce sont des situations que l'on voit aussi de plus en plus souvent en Afrique de l'Ouest. Vous vivez au Sénégal. Après, ça, ce sont plutôt des conséquences du changement climatique.
Le reportage parle de la République démocratique du Congo. On a vu que ces dernières années, il y a des inondations récurrentes dans cette zone. Donc, il n'y a pas d'études qui montrent vraiment une corrélation entre les événements ENSO, El Niño ou La Niña sur l'Afrique centrale. Mais comme on parle du lac Tanganyika, je ne sais pas si c'est alimenté par des pluies qui proviendraient peut-être de l'Afrique de l'Est. Mais ce qui est sûr, c'est que avec le changement climatique, on a de plus en plus des phénomènes météorologiques extrêmes, les plus extrêmes. Récemment, il y a eu également des inondations au niveau de la République démocratique du Congo, mais par manque de données, il n'était pas possible de faire des études d'attribution pour attribuer ces événements extrêmes au changement climatique. Là également, c'est un autre problème qui se pose.
Ça, c'est un problème assez spécifique au continent africain, hein. Le manque de données pour essayer d'attribuer les catastrophes naturelles, enfin dites naturelles, au changement climatique.
Ouais, bien,
ça, c'est souvent un problème. Jérôme Vialar, est-ce qu'on peut faire un lien entre El Niño et ses inondations en République démocratique du Congo ?
Alors, moi, je suis sur la même longueur d'onde que ma collègue, c'est-à-dire qu'effectivement, sur le phénomène El Niño, a des impacts qui sont assez bien répertoriés en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, un petit peu aussi en Afrique de l'Ouest, mais un peu moins en Afrique centrale. Mais peut-être ce sur quoi je voudrais insister, c'est le pouvoir de nuisance combiné du réchauffement climatique et du phénomène El Niño. C'est-à-dire que avec le réchauffement climatique, on va rentrer dans des régimes qu'on n'a jamais eus jusqu'à présent. On peut par exemple imaginer une situation où à cause d'un El Niño, on va avoir une anomalie chaude assez importante, mais à cause du réchauffement climatique, l'atmosphère globalement est plus chargée en humidité. Ce sera plus facile pour une anomalie chaude océanique d'extraire de l'humidité de l'atmosphère, de mener à des précipitations intenses dans une atmosphère qui a été réchauffée par le changement climatique que si ce n'était pas le cas. Donc voilà, ce qui est inquiétant...
Il y a un phénomène d'emballement, en fait.
Exactement. Ce qui est inquiétant, c'est que la conjonction de la variabilité naturelle et du réchauffement climatique va nous amener des amplitudes de vagues de chaleur, des amplitudes d'inondations qu'on n'a pas forcément connues auparavant et auxquelles les sociétés humaines vont devoir s'adapter, en fait.
Et notamment de vagues de chaleur humide. Or, on sait qu'il y a un problème de risque, de limite corporelle, puisque nous, les humains, au-delà de 35 degrés, avec, je crois, 80% d'humidité, notre corps n'est plus en capacité de refroidir. Aïda Dionyang, c'est très inquiétant, ce phénomène.
Effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé des impacts d'El Niño sur l'Afrique de l'Ouest. Il y a une augmentation de température qui se superpose à l'augmentation de température due au changement climatique. Et là, il faut noter que nous sommes dans des régions où les températures sont assez élevées. Donc, une augmentation qui paraît minime peut avoir des effets néfastes, notamment sur la santé humaine, animale et aussi celle des écosystèmes.
Ouais, on comprend bien que, en fait, tout est lié. C'est une machine formidable, la planète dans laquelle nous vivons.
Mais la combinaison de ces effets,
voilà, de comprendre quelles sont vraiment les causes. C'est difficile d'attribuer, en fait, un événement à un phénomène ou à un autre, même si on arrive quand même à le tracer et on le voit sur El Niño de façon très claire, comme nous allons le voir dans un instant au Kenya. Les conséquences du phénomène El Niño sont massives, en tout cas sur l'ensemble du vivant. Nous en parlons dans un instant, mais d'abord place aux Français Jojoa et Lieutenant Nicholson qui chantent El Niño dans C'est pas du vent, évidemment.
La pluie ne tombe pas. Font là-bas,
ça c'est chaud.
Arrêtons les débats.
Là c'est chaud.
Il frappe ici et là.
El Niño.
Lieutenant Nicholson et leur titre El Niño sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Brun.
Nous parlons d'El Niño aujourd'hui dans C'est pas du vent à l'occasion de la journée spéciale que RFI consacre à ce phénomène climatique naturel et à ses conséquences, notamment sur le continent africain. Au Kenya, le plus tragique épisode des inondations continue de frapper. Il s'agit de la rupture d'une retenue d'eau le 29 avril à Maimayu, dans le comté de Nakuru et une centaine de kilomètres au nord de Nairobi. La semaine dernière, le corps d'une victime a encore été retrouvé, portant à 62 le bilan de cet accident. Ce sont les fortes pluies qui ont provoqué la rupture de cette retenue ancienne, constituée après les travaux de la voie ferrée à l'époque coloniale. Un mois plus tard, sur place, tout est encore dévasté. C'est un reportage de Gaëlle Lalex.
Le village de Mogas, dans la localité de Maimayu, n'est plus qu'un souvenir. Sous la boue, les arbres déracinés et les pierres, ne restent que les ruines et les gravats.
Ça, c'était les toilettes. Enfin, ce que vous voyez là, ce n'est plus que le sol des toilettes. Beaucoup d'arbres ont été emportés depuis là-haut, à 3 ou 4 km d'ici. Et aussi beaucoup de sable.
Johnny Kinutia est psychologue, volontaire au Centre d'information et de ressources pour le handicap de Naivasha. Il suit les victimes de l'accident.
Rien ne pouvait rester debout face à la magnitude et à la force de ces eaux. Donc les toilettes, les maisons, les bâtiments, tout a été emporté.
Et que font les gens là qui sont autour de nous avec leurs pelles et leurs brouettes ?
Ils viennent juste voir s'il reste quelque chose à récupérer. Ou par exemple, ces gros arbres. Ils viennent pour les brûler, pour faire du charbon et pour mettre quelques sous dans leur poche.
Les victimes de Maïmaïou ont tout perdu. Des proches, des enfants, leur maison et souvent leur source de revenus, car beaucoup vivent de la terre ou de l'élevage.
Je m'appelle Marie Wanjiru. J'habite en ce moment dans le camp de l'ONG Prières sans frontières. Mon village, Ruiru, a été emporté par les inondations. Là-bas, je coupais les cheveux. J'avais aussi 5 chèvres et des lapins. Et aujourd'hui, mes terres sont ravagées. Tout est parti et on n'a aucun espoir de les remettre en état.
Et en ce qui concerne vos animaux ?
Tout mon bétail a été emporté. Nous-mêmes, toute la famille. On a été pris dans les eaux dans notre sommeil. On n'a rien pu sauver.
Est-ce que vous pouvez évaluer combien vous avez perdu ?
Au moins 2,5 millions. J'ai perdu une maison, de gros réservoirs d'eau pour les champs, les semences, tout mon bétail. J'avais investi tellement dans cette ferme.
Marie a 15 jours pour retrouver un logement. Après ce délai, l'hospitalité de l'ONG Prières sans frontières prendra fin. Des autorités, elle n'a reçu d'aide que pour financer l'enterrement de son petit garçon. Aujourd'hui, Marie ne cache pas sa colère.
Oui, cette tragédie aurait pu être évitée. Les autorités disent que ce n'était pas vraiment un barrage, mais une retenue, des sortes de tunnels. Créé il y a longtemps par les chemins de fer. Un de ces tunnels était bouché. Et à mon sens, la compagnie du rail kenyan n'a pas vraiment prêté attention à ce problème. L'eau s'est accumulée pendant des années jusqu'à ce que la retenue se forme. Donc, si la compagnie de chemins de fer s'en était occupée, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Est-ce que vous saviez, vous, que cette retenue d'eau était dangereuse ?
Non, on n'en savait rien. D'abord, c'est très loin de notre village. Ensuite, une autre retenue que l'on soupçonnait de pouvoir s'effondrer avait été inspectée par les services de l'environnement. Ils avaient creusé pour que l'eau s'écoule doucement. Donc, on pensait que tout était OK.
Après la tragédie de Maïmaïou, les autorités kenyanes ont identifié plus de 170 retenues d'eau dangereuses et ont évacué en urgence les populations riveraines. L'opposition kenyane dénonce un manque de préparation effarant de la part du gouvernement. Les autorités assurent pourtant avoir provisionné 10 milliards de shillings kenyans, près de 70 millions d'euros, pour se préparer et répondre au phénomène El Niño. Argent largement distribué, selon elle, aux gouverneurs de région. Et ainsi s'enclenche le ping-pong des responsabilités dans lequel navigue le président William Ruto.
Je ne crois pas que ce soit le moment de pointer du doigt. Je pense que nous devons juste affronter le problème, répondre vite, et aussi demander aux Kenyans, comme nous l'avons fait, de s'éloigner du danger, des endroits où il y a un risque d'inondation. Il faut que nous soyons tous prudents et que nous ne mettions pas nos vies en danger. Même si le gouvernement prend des mesures de précaution pour protéger et soutenir les victimes d'inondations ou de coulées de boue.
Aux Kenyans, donc, d'être plus responsables. En conséquence, ceux qui vivent sur des terres inondables verront leur maison détruite. C'est la décision du gouvernement. À Matare, le plus vieux bidonville de Nairobi, la capitale, où 30 personnes sont mortes dans les inondations, les bulldozers progressent depuis 3 semaines. Byron Dédé attend que sa maison soit engloutie par les monstres d'acier.
J'habite ici à Matare, près de la rivière. Ma maison est juste là en bas. Les autorités l'ont saisie. Ils ont déjà fait le marquage, les études de terrain, donc il n'y aura plus de maison. Je n'ai pas de travail, je n'ai plus de maison et je n'ai nulle part où aller. Donc ce que je demande au président, d'une manière polie et civilisée, s'il vous plaît, reconsidérez votre décision et essayez de trouver un endroit où nous pourrons vivre. Et comment allons-nous survivre avec tout ce que vous vous apprêtez à faire ?
Pour l'heure, aucune solution de relogement n'a été proposée aux populations des Guerpi. Elles vivent dans des églises, des mosquées, des écoles ou dans la rue. Une injustice que dénonce Wanjira Wanjiru du Réseau pour la justice écologique de Mataré.
Nous savons que notre pays a de vastes terres, dont certaines sont encore aux mains des Britanniques. 2,5 millions d'hectares, pour être précise, peut-être même plus. Et les pauvres du Kenya sont entassés dans des bidonvilles depuis des années. C'est donc le moment idéal pour nous de rappeler notre droit au logement décent et à la terre. Tout cela aurait pu être évité. Si seulement les gens avaient eu des logements décents, ils ne se seraient pas installés aussi près de la rivière. Le gouvernement aurait pu s'assurer que les gens aient quitté les rives et aurait pu les reloger plus tôt, avant les inondations. Les experts savaient que les pluies seraient fortes et ils avaient prévenu le gouvernement. C'était partout aux infos, mais il n'y a eu aucune action prise par le gouvernement.
Lors d'une visite à Mataré, le président William Ruto a promis 10 000 shillings, soit environ 70 euros, aux personnes délogées pour les aider à retomber sur leurs pieds. À cette heure, elles attendent toujours le versement de cette aide.
Un reportage de Gaëlle Lalex réalisé par François Porcheron. Aïda Diongnyang, je rappelle que vous êtes météorologue, conseillère technique à la direction de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal, vice-présidente du premier groupe de travail du GIEC. Et je vous voyais hocher la tête à l'écoute de ce reportage où l'on entend finalement le manque de préparation de la part des autorités et les plus vulnérables qui du coup sont victimes.
Oui, il y a des facteurs de vulnérabilité dans beaucoup de pays africains, notamment le fait qu'il y a des établissements qui sont informels, qui se trouvent dans des zones qui sont au bas des rivières, par exemple. Et lors du dernier rapport du GIEC, il a été montré que dans les pays en développement, il y a 15 fois plus de victimes quand il y a des événements extrêmes que dans les pays développés. Donc dû à l'exposition, également à la vulnérabilité des populations. Donc comme ça a été dit dans le reportage, les phénomènes El Niño sont assez, enfin une fois que c'est déclenché, sont assez prédictibles. Donc le gouvernement, en tout cas, avait des informations par rapport au fait qu'il y aura de plus en plus intense. Donc il y a eu des efforts pour avoir des systèmes d'alerte dans beaucoup de pays africains. Maintenant, il faudrait que ces systèmes d'alerte soient suivis d'actions également.
Oui, quand l'argent est provisionné, qu'il aille vraiment au bon endroit, comme on l'entendait dans ce reportage. Jérôme Vialard, je rappelle que vous êtes climatologue, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Ces inondations très fortes au Kenya, pour le coup, elles sont vraiment attribuables à El Niño.
Alors oui, tout à fait. Effectivement, l'Afrique de l'Est, donc Kenya, Somalie, Éthiopie, sont influencés. On sait de par le passé que ces régions-là sont systématiquement influencées par El Niño avec plus de précipitations pendant les El Niño. Donc effectivement,
parce que l'océan Indien se réchauffe, donc il y a plus d'eau à la surface et quand ça arrive sur le continent, ça fait des pluies
exactement.
Plus intenses.
C'est un effet effectivement un petit peu indirect, c'est-à-dire que pendant un El Niño modifie la circulation de l'atmosphère sur l'océan Indien. Et l'ensemble de l'océan Indien se réchauffe en fait pendant El Niño. C'est un réchauffement qui dure même après la fin de El Niño. Et ce réchauffement, près des côtes effectivement du Kenya, entraîne plus de précipitations.
Alors il y a une étude du réseau de scientifiques World Weather Attribution qui a été publiée vendredi dernier qui affirme qu'il n'y a aucune preuve que le phénomène El Niño ait eu une influence dans les pluies diluviennes qu'a connues cette année l'Afrique de l'Est. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette analyse? Vous dites si c'est avéré et eux mettent un doute. Donc nous, journalistes, on lit cela et qu'est-ce que nous disons à nos auditeurs?
Alors déjà, je trouve que c'est très sain de temps en temps de rappeler aux auditeurs que la science, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, il y a des débats qui sont vivaces et qui sont importants à l'intérieur des sciences. La raison pour laquelle c'est un petit peu difficile d'attribuer un événement climatique particulier à un phénomène, c'est que d'une part, il y a plusieurs phénomènes climatiques qui sont susceptibles de créer des anomalies de pluie, des inondations sur l'Afrique de l'Est. Il y a El Niño, mais il y a aussi des phénomènes climatiques locaux dans l'océan Indien qui peuvent aussi avoir les mêmes conséquences. Donc il faut déjà distinguer l'un et l'autre. Et puis en plus, le climat, c'est la moyenne de la météorologie sur une longue période. Si pendant un mois, mettons que chaque jour, je tire à pile ou face, et pile, c'est de la pluie, et face, c'est du soleil, eh ben, je peux avoir pas de chance et faire à plein de piles. Et en fait, c'est que le hasard qui a joué, il n'y a pas eu de phénomène climatique ou quoi que ce soit, mais je vais avoir des anomalies, des précipitations. Donc voilà, c'est toujours un petit peu difficile de distinguer quand on a une anomalie climatique, est-ce qu'elle est due au hasard Est-ce qu'elle est due à un phénomène? Et si elle est due à un phénomène, lequel? Bon, quand même, sur l'Afrique de l'Est, on a des bonnes indications de par le passé que le phénomène El Niño entraîne des précipitations. Et à la limite, peu importe que ce soit directement le phénomène El Niño qui influence les précipitations ou que ce soit par jeu de ping-pong en passant par les températures de l'océan Indien, on sait que la plupart du temps, quand il y a un El Niño qui est fort, on a des anomalies de pluie sur l'Afrique de l'Est.
Aida Diongnong, ces discussions sur les attributions de ce qui se passe, c'est vrai que c'est important parce que les gens se demandent souvent en se disant ben, il y a une sécheresse ici, il y a des inondations là-bas, il y a un cyclone ou une tempête. On a souvent tendance à dire c'est à cause du changement climatique. En même temps, il faut de la rigueur scientifique, mais c'est tout le travail du GIEC, en fait, cette rigueur.
Oui, effectivement. Donc, lors du dernier rapport du GIEC, en tout cas lors du dernier cycle du GIEC, il a été montré qu'il y a eu pas mal d'avancées sur les études d'attribution des événements extrêmes. Donc, nous savons que de manière générale, il y a une augmentation des événements extrêmes, donc des pluies extrêmes. Mais pour un événement donné, il faut faire une étude d'attribution pour savoir est-ce que cet événement donné est dû au changement climatique ou est-ce que c'est un événement qui peut arriver par un jeu de hasard. Maintenant, c'est assez complexe, en fait, l'attribution, parce qu'il faut un jeu de données important. C'est des modèles climatiques plus des modèles statistiques qu'il faut combiner. Et donc, ce n'est pas toujours évident de faire des études d'attribution dans nos régions. Mais il y a eu quand même pas mal d'avancées ces dernières années.
Ça progresse, on l'entend bien, en tout cas à travers vos propos. Jérôme Vialard, il y a aussi des conséquences sanitaires d'El Niño, notamment en Afrique.
Oui, alors parmi les conséquences sanitaires dont on peut parler, en Afrique de l'Est, donc quand il y a des précipitations très importantes, ça peut favoriser le développement de certaines maladies à vecteurs, comme voilà la malaria en fait, parce que ça
plus d'humidité,
favorise,
plus de chaleur, plus de moustiques,
favorise le développement des anopheles effectivement. Voilà, il peut y avoir aussi des impacts sur la qualité de l'eau de consommation en fait, et donc des cas de diphtérie par exemple. Il peut y avoir des effets aussi plus indirects. Donc on avait observé que sur la région indonésienne, pendant un El Niño, on a des sécheresses. Les Indonésiens pratiquent la culture sur brûlis. Quand on fait de la culture sur brûlis pendant des périodes de sécheresse, ben, y a des gros incendies. Et donc, ça dégrade la qualité de l'air et ça peut entraîner des maladies respiratoires. Donc oui, c'est vrai que le phénomène El Niño a de nombreux impacts et des fois qui peuvent sembler assez loin du climat, mais ça prouve à quel point nos vies dépendent des conditions climatiques dans lesquelles on évolue.
En tout cas, ce phénomène crée des inondations, nous l'avons vu, mais aussi des sécheresses, comme vous allez le découvrir dans un instant en Zambie. Mais d'abord, place à la Kenyane Mutoni Drummer Queen et son titre Pomoni sur RFI.
Pima, bado hujanijua, penzi nita
Harmony, un titre de la Kenyan Mutoni Drummer Queen que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres sur la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons d'El Niño aujourd'hui dans C'est pas du vent avec nos invités à l'occasion de la journée spéciale que RFI consacre à ce phénomène climatique naturel et à ses conséquences. Partons en Zambie à présent, un état d'Afrique australe particulièrement impacté. Depuis plus d'un an maintenant, le pays est confronté à l'une des pires sécheresses de son histoire. En février dernier, le président Hakainde Hichilema a déclaré la Zambie en situation d'urgence et de catastrophe nationale. Il s'en remet désormais à l'aide extérieure alors que le pays est en état de faillite depuis 2020. Près de la moitié de la population, soit 10 millions de personnes, se retrouvent en insécurité alimentaire. 80% des récoltes de maïs, l'alimentation de base, ont été décimées. Igor Strauss s'est rendu dans la région de Kabwe, à 200 km au nord de Lusaka, la capitale, pour rencontrer des agriculteurs affectés par la sécheresse. Une ONG, le CIMIT, aide les agriculteurs à diversifier leur production et les incite à produire des légumes moins gourmands en eau que le maïs.
We can eat it. On peut en manger certains, mais d'autres ont été trop abîmés. Un peu comme celui-là.
Ah oui, bah la moitié de l'épi de maïs est complètement sec, complètement pourri.
Hein.
Oui, il est abîmé. Si vous voulez le manger, il faut trier les grains.
À cause
du manque de pluie, le maïs a été attaqué par des insectes.
When it rains last year,
l'année dernière, avec la pluie, le maïs n'était pas comme ça. On avait eu une bonne récolte. Mais là, avec la sécheresse, on ne sait pas comment on va survivre cette année. Et si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter les fournitures scolaires pour les enfants, les envoyer à l'école. On ne peut pas acheter de médicaments s'ils tombent malades. Donc c'est vraiment terrible ce qui arrive en Zambie en ce moment.
Donc là, on marche dans les champs, effectivement, il y a tout qui a brûlé, hein. Que ce soit le maïs, le tournesol. Là, le monsieur me montrait son champ d'arachides. Les arachides, elles ont brûlé au sol. Tout est sec. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est en fin de saison des pluies. Donc les gens me disaient que là, tout devrait être vert. L'année dernière, tout était vert. Le paysage, aujourd'hui, ne ressemble pas du tout à ce qu'il devrait être. En fin de saison des pluies. Puisque la saison des pluies, elle finit en fin avril. Là, on est début mai, donc il devrait y avoir de l'eau et de la verdure. Bon appétit. Ah, il y a des belles pastèques, là. Elle a bon goût.
Yes. Good taste, yes.
Donc, c'est votre épouse?
Yes.
Bonjour, madame.
Yes, hello.
Bonjour,
je m'appelle Christa Belkazuleka.
C'est vous qui cultivez le champ de légumes?
Yes, I farm this cowpeas.
Oui, je cultive des haricots et des légumes. C'est de la nourriture pour mes enfants et ça me fait de petits revenus.
Vous avez été aidée par AfriSeed et le CIMIT. Concrètement, en quoi ils vous ont été utiles? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris?
Yes, it is good because...
C'est une grande aide parce que ces haricots, c'est eux qui les achètent et à un bon prix. Donc c'est bien pour nous. Ça me permet d'envoyer mes enfants à l'école. Et ça fait 3 ans que je cultive ces légumes, que j'ai de nouvelles semences. Parce qu'on n'avait pas de ces semences avant. On avait d'autres variétés locales. Mais celle-ci, comme vous le voyez, elle résiste bien à la sécheresse.
Et vous vendez aussi des légumes?
Yes, we even sell the vegetables.
Oui, on vend nos légumes et les cosses de haricots nous permettent de nourrir le bétail. Quand vous retirez les haricots, les cosses qui restent nourrissent les animaux. Donc c'est très pratique pour nous ce type de haricots. Ça nous aide vraiment.
I
I'm Grace Musonda. I work as an associate seed systems under CIMID.
Je m'appelle Grace Musonda. Je travaille dans le développement des semences pour l'ONG CIMID. CIMID soutient le gouvernement zambien et les compagnies semencières pour améliorer la disponibilité et l'accès aux semences hybrides qui résistent mieux au changement climatique et qui ont de meilleures qualités nutritionnelles. Le défi avec les légumes, c'est de trouver un marché avec des prix corrects. Contrairement au maïs, où vous trouverez toujours des acheteurs si vous en produisez. Pour les légumes, ce n'est pas le cas et c'est un véritable challenge. Pour les légumes, les agriculteurs manquent d'informations. Ils ne savent pas comment les valoriser, comment les vendre. Avant, ils cultivaient d'anciennes variétés de haricots, mais maintenant, ils ont accès à de nouvelles semences et il faut les aider à les produire, les utiliser et les vendre.
Africid comes back and says, for that seed that you produce,
c'est ce que fait Africid, qui leur achète les haricots à un prix fixe supérieur à ce qu'ils vendaient avant. Ça leur permet donc d'avoir des revenus supplémentaires. Vous savez, cette année, il n'y a pas eu de récolte de maïs, mais grâce à ces légumes, ils ont des petits revenus. Comme a dit la dame, ça leur permet de laisser les enfants à l'école et d'acheter ce dont ils ont besoin. Et puis, cela améliore l'accès à une nourriture de bonne qualité pour toute la communauté, tout en assurant des revenus supplémentaires. Donc, c'est bien pour la sécurité alimentaire et pour les rentrées d'argent. Et puis maintenant, ils peuvent vendre ces semences aux agriculteurs dans tout le pays. Donc, c'est bien pour la sécurité alimentaire de la Zambie, et pas seulement pour la communauté. Donc, pour nous, c'est la bonne stratégie.
My name is Gilbert. Gilbert Lakis, I'm a farmer.
Je m'appelle Gilbert Lakis, et je suis agriculteur à Mwanze, à 200 km au sud de Lusaka. Ici, normalement, il tombe entre 1000 et 1400 mm de pluie par an. Mais cette année, dans la plupart des régions, il n'y a eu que 350 à 380 mm de pluie. C'est un déficit d'eau de plus de 1000 mm. Les effets du réchauffement climatique sont énormes. Et quand les choses vont vraiment mal, il faut se mettre en mode survie au lieu d'essayer de cultiver des grandes surfaces et de multiplier les problèmes. Il faut ralentir, changer sa façon de penser et ne cultiver que la surface nécessaire.
Donc vous avez réduit la superficie? Mais en réduisant la superficie, bah forcément, vous réduisez aussi la récolte. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème pour la sécurité alimentaire?
The word here comes in survival. So, in other words, the farmers would look at the size of their family.
Quand je dis qu'il faut se mettre en mode survie, cela signifie que chaque agriculteur doit regarder la taille de sa famille et cultiver en conséquence. La question, c'est de quelle quantité d'eau je dispose. Est-ce que j'ai accès à un barrage? Bon, mais ça concerne peu de gens. Est-ce que j'ai un marigot? Mais ça aussi, peu de gens ont un marigot. Est-ce que j'ai de l'énergie solaire? Et là, ça se complique encore, car peu de gens ont des panneaux solaires. Ces technologies nous dépassent. Nous cherchons des moyens complexes pour lutter contre le réchauffement climatique, alors qu'il faut faire des choses simples. Et les méthodes simples, ce n'est pas de tout changer. Parfois, c'est mieux de conserver nos anciennes pratiques qui nous ont permis de survivre depuis 200 ou 300 ans. Avec le réchauffement climatique, je crois qu'il faut revenir à la base et voir comment survivre. Parce que les technologies qui viennent des pays développés coûtent cher. En Afrique, nous avons le soleil. Mais l'énergie solaire est hors de prix. On dit aux gens, arrêtez de couper les arbres pour faire du charbon de bois, car le solaire est la solution. Mais alors, pourquoi les panneaux solaires sont encore aussi chers pour les Africains? Si c'est la solution, et que vous voulez préserver les arbres pour le climat, pourquoi ces solutions sont aussi coûteuses pour les pays en voie de développement? Le monde occidental est responsable du réchauffement climatique qui affecte les pays en voie de développement. Et les solutions qu'ils nous proposent sont hors de prix. Pourquoi? Avec la technologie, on a désormais des entreprises qui produisent de meilleures semences, écologiques. Mais si vous n'avez pas accès à l'électricité qui permet de pomper l'eau, ce n'est pas une solution. C'est une suggestion de solution. Mais ce n'est pas une solution pratique, durable, abordable. Il y a vraiment une déconnexion totale entre ces technologies et leur mise en œuvre dans les pays en voie de développement.
C'était un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron. Aïda Diong-Nyang, à l'écoute de ce reportage, nous comprenons bien que la clé, c'est l'adaptation, mais c'est compliqué l'adaptation.
Effectivement, c'est compliqué, mais dans le reportage, on a vu qu'ils ont essayé de diversifier les cultures, mais également, peut-être qu'il faut aller plus loin, revoir les variétés, parce que le maïs est une variété très gourmande en eau. Donc, comme céréales moins gourmandes en eau, il y a le mil, le sorgho. Mais c'est beaucoup plus vaste parce qu'il a également parlé de l'utilisation des connaissances locales. Donc, c'est important dans les stratégies d'adaptation. Donc, voir toutes les connaissances scientifiques, mais également les connaissances locales. Et tenir compte également du contexte local. C'est très important pour voir les solutions d'adaptation à mettre en place. Ne pas prendre des solutions d'ailleurs et les mettre en place dans une autre région sans voir le contexte local.
Oui, parce que ce que disait le monsieur en fin de reportage, c'était extrêmement intéressant, en disant nous, on veut bien mettre en place des panneaux solaires, mais c'est trop cher, donc on continue à couper les arbres pour avoir du charbon, parce que c'est ce qui est le plus accessible pour nous. Donc là, ça pose toute la question derrière de l'aide internationale, finalement.
Effectivement, du financement de l'adaptation, qui est l'action climatique la moins financée en Afrique, même si l'atténuation est également très mal financée, mais l'adaptation est la moins financée. L'action
le climatique, parent pauvre.
Oui, le parent pauvre. Même s'il y a une baisse, on voit que quand même il y a une baisse du prix des panneaux solaires. Mais en Afrique, comme la technologie est importée, elle reste encore chère. Donc ça implique également les questions de transfert de technologie.
Voilà, tout cela est tout cela évidemment ensemble, au cœur des discussions internationales autour du changement climatique. Jérôme Vialard, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous arrivons aussi à la fin du phénomène El Niño. Mais au phénomène El Niño succède La Niña.
Alors, pas toujours, mais ça a l'air d'être effectivement bien en route actuellement. Si on regarde le Pacifique tropical, il est encore chaud pour la plupart du bassin, mais il commence à y avoir une petite tache froide dans l'est du bassin. Et je vous ai dit, en fait, que c'est un phénomène couplé aux océans atmosphères. Il faut aller regarder sous la surface de l'océan. Si on veut un peu, c'est comme une boule de cristal, en fait. Et là, si on regarde le long de l'équateur, en fait, dans l'océan Pacifique, il y a une anomalie froide très marquée qui s'est développée et qui va bientôt, en fait, crever la surface, qui va rejoindre la surface. Donc là, on estime qu'il y a 85% de chances qu'il y ait un La Niña, l'anomalie opposée à El Niño, qui se développe d'ici la fin de l'année.
À quoi faut-il s'attendre ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, l'effet de l'El Niño, il est un peu, sur la température planétaire, il est un peu retardé dans le temps. Donc, ce qui veut dire que l'année à venir, en fait, va encore être probablement anormalement chaude et peut-être battre le record de l'an dernier.
L'effet... De toute façon, on bat le record chaque année.
Oui, mais par contre, s'il y a un La Niña qui se développe, l'an prochain, on devrait avoir un petit effet climatisation dont je parlais.
Voilà, petit refroidissement.
Mais temporaire, malheureusement. Ce n'est pas un refroidissement à long terme.
Et oui, n'oublions pas que la trajectoire globale, c'est le réchauffement du climat à cause du changement climatique en cours, lié non pas à un phénomène naturel, mais aux activités humaines. Merci à tous les deux d'avoir pris ce temps pour faire de la pédagogie sur ce phénomène El Niño auquel RFI a consacré cette journée. Merci donc à tous les deux d'être venus dans le studio 52 au 5e étage de RFI. Merci à Caroline Fillette pour la préparation et à François Porcheron pour la réalisation. Et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.